11h sur Radio Campus Tours. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous écoutez La Méridienne. Et chers auditeurs, savez-vous que le 10 octobre aura lieu la fête de la science intégralement dématérialisée à retrouver sur la chaîne YouTube de l'Université de Tours. Et parmi les nombreux invités, les nombreuses conférences, visites et autres choses, expériences en tout genre que vous pourrez découvrir, vous aurez la chance de découvrir le LIFAT, Laboratoire d'informatique fondamentale et appliquée, de Tours. Alors, si pour le moment tout ça est bien mystérieux, rassurez-vous car j'ai la chance d'avoir avec moi en studio Jean-Yves Ramel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du LIFAT.
Tout à fait, je suis le directeur du LIFAT depuis à peu près 4 ans.
Alors tout d'abord, est-ce que vous voulez nous expliquer, vous, quel est votre rôle ? Donc vous êtes directeur, mais vous êtes aussi enseignant-chercheur. Voilà, quelles sont toutes vos activités au sein de l'Université de Tours et du LIFAT ?
Donc, je vais commencer donc par le rôle de directeur du laboratoire LIFAT, donc que j'assure depuis 4 ans. Le rôle, c'est d'animer un petit peu le laboratoire, donc de préparer des séminaires, de veiller à ce que tous les membres du laboratoire travaillent dans de bonnes conditions, essayer d'orienter un petit peu les aspects scientifiques du laboratoire pour que chacun des chercheurs ne fasse pas ce qu'il a envie, mais qu'il y ait une stratégie collective et qu'il y ait des collaborations entre tous ces chercheurs pour essayer de mettre plus de force dans la résolution des différents problèmes auxquels on s'attaque. Donc sinon, je suis aussi, donc, comme vous l'avez dit, enseignant-chercheur, donc à la fois chercheur et enseignant. Donc je suis en fait rattaché à deux composantes de l'Université de Tours. Je suis rattaché au laboratoire d'informatique que je dirige et je suis rattaché à Polytech Tours pour la partie enseignement. Et donc je donne des cours au département informatique de Polytech Tours. Et donc là, mes spécialités, enfin, c'est assez varié, mais ça peut aller de l'algorithmie jusqu'à fonctionnement des réseaux et aussi un petit peu des aspects plus mathématiques sur l'analyse de données et l'intelligence artificielle, puisque dans le laboratoire, mes activités de recherche concernent aussi beaucoup l'intelligence artificielle, qui est quelque chose à la mode en ce moment. Et du coup, j'ai oublié de dire, mais dans les activités que l'on a assurées, il y a aussi beaucoup d'administratifs. Et donc, en tant que directeur du laboratoire notamment, je dois gérer tous les aspects administratifs et budgétaires, avec de l'aide, hein, bien sûr, mais... Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps, tous ces aspects administratifs.
Alors, est-ce que c'est juste de dire que plus on a de responsabilités dans un laboratoire, plus on fait de papier, en fait, d'administratif ?
Oui, c'est juste. Enfin, du papier et des réunions. Beaucoup de réunions aussi, puisqu'il faut être au courant de toutes les activités en lien avec les thématiques dans lesquelles on travaille en région, mais même nationalement et internationalement. Et du coup aussi, en France, on sait qu'on est les rois du papier et de l'administratif. Et donc, il y a beaucoup de procédures qui génèrent beaucoup de papier. Et, si vous saviez combien de signatures je fais par semaine, c'est presque incroyable.
Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir directeur du LIFAT ? Est-ce qu'on postule ? Est-ce qu'on est nommé ? Comment on devient directeur d'un laboratoire ?
On postule, hein, on n'est pas nommé. C'est aussi... donc. C'est pas une obligation. Quand on candidate, c'est qu'on a envie de le faire. Et enfin voilà, du coup, moi j'avais envie d'essayer de changer un petit peu l'organisation de ce laboratoire. C'est ça qui m'a motivé à poser ma candidature et à être élu du coup
voilà.
Dans ce rôle.
Donc on est élu au suffrage universel, je ne sais pas, mais en tout cas on est élu. Est-ce que vous voulez nous dire, Jean-Yves Ramel, donc là vous êtes actuellement directeur du LIFAT, mais puisque nos auditeurs sont majoritairement étudiants, quel a été votre parcours d'études ?
Oui, donc je vais remonter aller au, Donc, j'ai fait mes études en Haute-Savoie, puisque je suis originaire de Haute-Savoie. D'abord à Annecy, puis après, j'ai fait un petit séjour pendant 2 ans pour ma maîtrise en sciences et techniques, informatique et télécommunications à Blois, donc pas loin d'ici. Après, je suis retourné vers ma famille à Lyon, où j'ai fait mon DEA d'informatique à l'INSA de Lyon, puis ma thèse d'informatique toujours à l'INSA de Lyon. Je suis resté pas mal de temps à l'INSA de Lyon, puisque après j'ai même été recruté en tant que maître de conférence à l'INSA de Lyon. Donc mon premier poste d'enseignant-chercheur était à l'INSA de Lyon, où là j'enseignais dans un département un petit peu différent, parce que ce n'était pas vraiment de l'informatique, c'était du génie industriel, donc plus informatique dans les ateliers. Et je faisais de la recherche en interface homme-machine et e-learning, donc des choses qui sont à la mode en ce moment. Et après, en 2002, du coup, j'ai eu l'occasion de demander ma mutation à Tours et j'ai décidé de venir à Tours. Et donc, c'est que depuis 2002 que je suis à Polytech Tours et à l'Université de Tours, où j'ai d'abord été maître de conférence. Puis après, on passe son habilitation à diriger des recherches pour avoir le droit d'encadrer officiellement des doctorants. Et après, on candidate pour devenir professeur des universités. Et donc là, je suis devenu professeur des universités en 2006 à Polytech Tours. Et donc, si j'ai oublié de donner les années, mais j'ai passé ma thèse en 1996. J'ai été recruté maître de conférence à Lyon en 98. Et donc, après, je suis arrivé à Tours en 2002, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Alors, qu'est-ce qui donne envie de, comment dire, de d'être dans l'enseignement en fait? Et pourquoi est-ce que vous avez choisi ça? Parce qu'après tout, vu votre domaine de compétences, vous pourriez travailler dans plein d'autres endroits. Pourquoi avoir choisi l'enseignement?
Bon, déjà, j'aime beaucoup le contact en général, j'aime beaucoup le contact avec les jeunes et avoir la possibilité au travail et tous les jours de côtoyer tout le temps les jeunes, de se remettre en cause tout le temps, d'être obligé aussi de suivre l'évolution des technologies pour être tout le temps au fait des dernières technologies en informatique. C'est important puisque nos cours évoluent en fonction de l'évolution des technologies et ça évolue très vite. Et du coup, être toujours en contact avec les jeunes, ça permet aussi d'être toujours au goût du jour pour la recherche. Après, il y a aussi le fait de pouvoir un peu s'organiser comme on veut, de faire des choses très variées, puisque du coup, on fait de l'enseignement, de la recherche. Les enseignements que l'on fait évoluent très facilement. Donc c'est varié en enseignement et c'est très varié en recherche. C'est pareil, en recherche, on travaille sur plein de projets différents. Et donc, on fait plein de choses très différentes. Et c'est ça un petit peu qui m'a plu, c'est la liberté de pouvoir un petit peu choisir ce sur quoi je travaille et le fait de jamais faire la même chose.
On a l'impression que c'est le mouvement perpétuel, en fait, votre travail, parce qu'on imagine que les connaissances dans votre domaine mais explosent constamment, en fait, ça se développe constamment. Et donc vous dites, bah oui, mais on est obligé en fait d'actualiser constamment ses connaissances. Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être Sisyphe, en fait, par moment, de dire que ça faut tout recommencer tout le temps? Comment on perçoit ça?
Alors, quand on est tout le temps dans la technologie, enfin, après, faut relativiser, et tout n'évolue pas non plus super rapidement, et il y a des choses qui restent constantes. Dans les méthodologies, notamment, qu'on utilise pour faire de la recherche, les méthodologies restent les mêmes. Après, c'est vrai que bon, ça évolue vite. Enfin, c'est une des contraintes, et peut-être même une chose à laquelle il faut faire très attention, c'est de pas toujours changer, mais essayer de se focaliser justement sur certains problèmes, sans toujours essayer peut-être de rester trop suivre la technologie trop vite, c'est aussi un défaut peut-être. Et je pense qu'on s'en rend compte de plus en plus en ce moment justement que tout va trop vite et que peut-être il serait temps de ralentir un peu les choses au niveau technologique et d'analyser plus toutes ces évolutions avant d'en créer encore d'autres. sont peut-être pas si utiles que ça.
Vous pensez à quoi, à la 5G?
Oui, par exemple.
Est-ce que vous aimeriez en dire, d'ailleurs, puisqu'on en parle de la 5G?
Alors, je suis pas spécialiste du tout de la 5G. Je veux pas non plus rentrer dans des aspects trop politiques, mais pour moi, enfin, j'ai l'impression que déjà, avec la 4G, on peut faire pas mal de choses. Et je suis pas sûr que... En tout cas, on a des besoins humains, nous, dans la rue et pour la vie de tous les jours, de passer aussi rapidement à la 5G. Donc voilà, peut-être que ça... Enfin, là, je trouve que c'est un peu trop rapide, le passage 4G, 5G, fibre optique, etc. Et que je suis pas sûr qu'il y ait un besoin si fort en tout ça pour la vie de tous les jours. Peut-être que dans les entreprises et dans les hôpitaux, ou pour des raisons... de suivi de certains patients, ça peut être intéressant. Mais j'ai l'impression là, qu'on ne réfléchit pas assez et que c'est plus des aspects commerciaux qui nous guident qu'autre chose.
Voilà, donc c'est-à-dire que c'est pas parce qu'une chose est faisable qu'elle est forcément...
déployable à grande échelle.
Ouais, voilà. D'accord, j'entends bien. Eh bien, merci déjà pour toutes ces informations, Jean-Yves Ramel. Alors peut-être qu'on peut revenir aussi au LIFAT. Alors là, j'ai sous les yeux l'organigramme du laboratoire hein, qu'on peut trouver sur votre site. Alors on voit qu'il y a plusieurs équipes. Voilà, ça, on est assez émerveillé en fait quand on lit cet organigramme, quand on voit tous ces champs de compétences. Possible. En plus, vous êtes une grosse unité de recherche. Hein. Vous disiez tout à l'heure, hors micro, que vous êtes à peu près une centaine. Alors, est-ce que vous voudriez nous présenter ce LIFAT ?
Donc, en effet, le LIFAT est une structure assez importante, puisque, comme vous l'avez dit, il y a à peu près 100 personnes, 100 membres au LIFAT en ce moment. Alors, ces 100 membres ne sont pas tous des permanents. Il y a à peu près la moitié de permanents, donc on est à peu près 50 enseignants-chercheurs au sein du LIFAT, donc travaillant en permanence et affectés en permanence au LIFAT. Il faut savoir que c'est un laboratoire multisite et multicomposante. Donc il y a des gens du LIFAT qui sont rattachés à l'Université de Tours. Au sein de l'Université de Tours, il y a des gens qui sont à Blois, à l'UFR Sciences, et à l'UFR Sciences à Tours aussi. Comme je le disais, moi, je suis à Polytech Tours. Voilà, donc il y a des gens de Blois, il y a des gens de Tours, il y a des gens de toutes les composantes, enfin, il y a tous les informaticiens, en fait, de l'Université de Tours sont rattachés au LIFAT. Les enseignants-chercheurs en informatique sont rattachés au LIFAT. Et après, donc, il y a des doctorants qui se dispersent aussi sur les sites de Tours et de Blois. Voilà, après ce que je peux dire, c'est décrire un petit peu l'organisation interne du LIFAT. Donc au LIFAT, il y a trois équipes de recherche. Une première équipe qui travaille sur l'analyse d'images et la reconnaissance des formes. Et donc tout ce qui est mettre en place. Donc au LIFAT, en fait, on est un laboratoire de recherche en informatique. Donc notre objectif commun à tous, je veux dire, c'est de développer des nouveaux algorithmes informatiques pour résoudre des nouveaux problèmes encore non résolus à l'aide d'algorithmes. Et donc, nos algorithmes, souvent, ils fonctionnent en traitant de grosses masses de données. Donc oui, la première équipe travaille donc en analyse d'images médicales, en analyse de vidéos. Il y a aussi des gens dans cette équipe qui font des logiciels ou des algorithmes pour reconnaître automatiquement du texte dans les images ou dans les documents scannés, etc. Donc ça, c'est la première équipe orientée images et reconnaissance des formes. Donc le but, c'est de faire des algorithmes qui analysent des images ou des vidéos pour y reconnaître automatiquement des formes spécifiques. Je pourrais donner des exemples plus tard si vous voulez.
Avec plaisir.
Il y a la deuxième équipe donc, qui s'appelle BDTLN, donc base de données et traitement du langage naturel. Cette équipe donc, travaille plus sur tout ce qui est web sémantique, analyse de données textuelles. Donc, par exemple, reconnaître des noms propres dans des textes ou aussi faire des systèmes de reconnaissance vocale. et tout ce qui est base de données, donc entrepôt, fouille de données, fouille de gros entrepôts de données pour essayer de trouver des informations spécifiques dans des grosses masses de données numériques. La troisième équipe s'appelle Route, Recherche opérationnelle, Ordonnancement Transport. C'est une équipe qui développe des algorithmes pour essayer d'optimiser des systèmes. Alors là, l'exemple que je peux vous donner, c'est par exemple optimiser une chaîne de production dans une entreprise ou optimiser la distribution des médicaments au sein des hôpitaux, etc., etc. Et enfin, en fait, il y a une quatrième structure au sein du LIFAT, qui n'est pas vraiment du coup une équipe de recherche, qui s'appelle un CETU, le CETU Iliad. Et en fait, c'est une petite originalité du LIFAT. C'est comme une petite start-up qui est associée au laboratoire et qui va pouvoir nous aider à transférer nos recherches dans le monde industriel. Donc, c'est une sorte d'interface entre les chercheurs et l'industrie. Et c'est une structure qui va finaliser les algorithmes qui sortent du laboratoire et qui ne sont pas toujours très complètement opérationnels, pour les rendre opérationnels vis-à-vis du grand public et de l'industrie. Crois que j'ai défini les structures qui composent le LIFAT. Enfin, après, je peux donner des exemples de
Voilà, alors
projets.
peut-être des exemples, parce que nos auditeurs peut-être ne sont pas tous familiers des algorithmes, et peut-être qu'ils ne voient pas bien concrètement à quoi travaillent les équipes du LIFAT.
Du coup, au LIFAT, on est un laboratoire d'informatique, donc c'est vrai que peut-être on a la chance que nos projets soient plus concrets et parlants que d'autres. Et du coup, les recherches que l'on mène sont à la fois théoriques, mais aussi facilement applicables sur des problèmes concrets de la vie de tous les jours. Donc, je vais essayer d'illustrer chacune des équipes. Donc, pour l'équipe qui fait de l'analyse d'image et de la reconnaissance des formes, donc, les partenaires privilégiés, c'est notamment le CHU de Tours. Et du coup, là, cette équipe va beaucoup travailler avec le CHU pour développer donc des algorithmes qui vont aider les médecins à faire du diagnostic en faisant de l'aide à l'analyse d'images médicales. Donc, par exemple, on a un projet en ce moment, enfin, on a même plusieurs projets. Donc, un premier projet qui consiste à faire des algorithmes pour analyser les différentes structures qui composent le cerveau et voir si un cerveau est sain, voir quelles sont les connexions qui existent entre les différentes zones du cerveau pour essayer de mieux comprendre le cerveau. Donc là, on est en partenariat avec le CHU de Tours, l'INSERM et l'INRA de Nouzilly. Et donc, à l'INRA de Nouzilly, il y a une IRM dans laquelle on peut scanner des cerveaux de brebis, après on obtient des images 3D du cerveau de la brebis et on lance nos algorithmes sur ces images pour que nos algorithmes étiquettent automatiquement les différentes zones du cerveau et voient quelles sont les connexions qui existent entre ces différentes zones. Et ça va aider les neuroanatomistes ou les gens qui travaillent en neurosciences à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau.
Mais alors là, peut-être que vous parlez de iBrain, parce
Donc
que
là, l'équipe avec laquelle on travaille, c'est iBrain de l'INSERM. Une collaboration entre le LIFAT et iBrain.
alors comment c'est transposable en fait, parce que là on parle de cerveau de brebis, mais iBrain on travaille bien sur le cerveau humain. Quelle est la jonction en fait entre les données?
Bah, du coup, il y a quand même beaucoup de ressemblances entre un cerveau de brebis et un cerveau humain. Et du coup, en fait, il y a justement là l'innovation, en fait. Le challenge, c'est d'essayer de faire des algorithmes qui marchent sur les cerveaux, pas que humains en fait, parce qu'il y a déjà eu beaucoup de travaux de recherche pour faire des algorithmes qui analysent des cerveaux humains, mais du coup, ces algorithmes ils marchent pas sur d'autres cerveaux pour d'autres espèces. Et donc l'idée, c'est d'essayer de concevoir un nouvel algorithme qui marche quel que soit le cerveau, aussi bien sur des cerveaux humains que sur des cerveaux de brebis, que sur des cerveaux de chiens, de chats ou de souris.
Mais alors, comment dire, c'est-à-dire, on essaie de chiffrer ou de nommer, par exemple, la conduction électrique ou alors un influx nerveux, c'est ça? C'est ça que vous...
Déjà, on essaye d'identifier les différentes zones du cerveau. Et après, on essaye de quantifier les flux d'informations qui circulent entre ces différentes zones en fonction des activités demandées aux gens. Par exemple, on demande à quelqu'un de penser à un mot et on regarde quelles sont les régions du cerveau qui s'activent simultanément et qui communiquent les unes avec les autres. Pour les brebis, on va leur demander de bouger ou de manger, ou simplement pour les brebis, on va juste essayer déjà de localiser les différentes zones du cerveau.
Et à quoi ça sert alors d'étudier le cerveau animal? Parce que voilà, on imagine bien le cerveau humain, mais pourquoi transposer ça au cerveau animal?
Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est plus simple de travailler sur un cerveau de brebis que sur un cerveau humain. Voilà, du coup, il y a des élevages de brebis qui sont dédiés à la recherche et qui sont sacrifiés, on va dire, pour faire des études scientifiques. Après, il y a aussi beaucoup de besoins sur... Je vais être plutôt positif là, du coup, comment dire, le bien-être des animaux, en fait, voilà. Et du coup, il y a des études menées à l'INRA qui ont pour but d'améliorer la qualité de vie des animaux d'élevage, et du coup, analyser le comportement des animaux en faisant justement une étude de ce qui se passe dans le cerveau des animaux et voir à quoi servent chacune des régions du cerveau. D'une brebis pour savoir quelle est la région qui est associée au sentiment de peur ou de stress, pour après être capable de quantifier ce stress dans différentes situations et mieux aménager les enclos pour diminuer le stress.
Voilà, donc c'est-à-dire que par exemple, après, grâce aux données extraites par l'équipe de recherche de l'IFET, les scientifiques pourront justifier avec un appui scientifique que tel aménagement ne convient pas à ces animaux parce que la souffrance est marquée dans le cerveau et que
C'est
c'est
ça.
quantifiable, mesurable. D'accord, bon, ouais. Je crois qu'on y voit déjà plus clair. Merci pour ce premier exemple. Est-ce que vous voudriez en proposer aussi pour les autres équipes?
Oui, alors un autre exemple du coup pour l'équipe Route là qui travaille sur l'optimisation. L'exemple le plus connu, c'est le, je sais pas si tout le monde connaît le site GéoVélo. En fait, GéoVélo, c'est un site, enfin, ou un service qui permet aux utilisateurs de vélo d'avoir une proposition de parcours entre deux points optimisée pour les vélos, en fait. Du coup, on ne peut pas utiliser aussi le même algorithme que pour les voitures, parce que déjà, l'algorithme doit savoir où se trouvent les pistes cyclables, mais doit aussi intégrer, quand il n'y a pas de pistes cyclables, d'autres contraintes qui n'avaient pas été prévues par les algorithmes classiques qui sont dans les GPS pour les voitures, qui sont la dangerosité justement de certaines voies, etc., etc. Et donc l'équipe Route a développé un algorithme capable de tenir compte de divers critères simultanément pour proposer un parcours optimisé au vélo en fonction des contraintes qui sont associées à l'usage du vélo.
Je crois que ça a été primé, non, d'ailleurs, ce
Oui, il y a eu
GéoVélo.
divers prix et du coup ça a été transféré dans le essai utilisé par le grand public. C'est un exemple de succès d'un algorithme qui a été au début, en tout cas de recherches qui ont été menées au départ au LIFAT.
Voilà, et donc est-ce que par exemple ce GéoVélo est passé par la petite start-up dont vous parliez tout à l'heure? Est-ce que
Non,
c'est...
parce que du
Non?
coup, la start-up dont je parlais est très récente. Elle a que 2 ans, je crois. Et du coup, elle n'existait pas encore.
Voilà, mais ça pourrait...
Mais ça pourrait passer comme ça.
Et donc, pour développer un projet comme GéoVélo, pour que ça puisse être proposé au grand public, comment on obtient des fonds, en fait, pour faire ça? Est-ce que vous êtes aidé, par exemple, pour tout ce qui est entrepreneuriat étudiant? Si c'est un projet qui est mené aussi avec des étudiants, comment c'est financé?
Donc, il y a plein de possibilités pour démarrer des recherches. Donc souvent, une recherche débute par si je pars vraiment du point initial, ce sera peut-être un stage de fin d'études d'ingénieur. Ça va permettre de débroussailler un petit peu le sujet et commencer à voir s'il y a de quoi aller plus loin au niveau scientifique ou si c'est juste développement et de la reprise d'un existant. Parce qu'en fait, en informatique, on a cette difficulté qui est d'être confronté assez souvent à des sollicitations d'entreprises qui viennent nous voir pour développer des algorithmes et dans lesquels il n'y a rien d'innovant. Et du coup, il faut qu'on fasse attention, nous, laboratoire de recherche en informatique, à ne pas devenir des SS2I de développement informatique et que les gens ne nous demandent pas de juste faire du développement informatique. Il faut qu'il y ait toujours un aspect recherche. Donc voilà une petite phase de débroussaillage du sujet qui souvent se fait par l'intermédiaire de stagiaires en informatique niveau Bac plus 5. S'il y a vraiment un sujet intéressant, après on passe donc sur la mise en place d'une thèse. Et du coup là il y a des différents modes de financement pour les thèses. Donc, il y a des aides de l'État. Quand c'est une thèse en collaboration avec une entreprise, il y a vraiment une grosse aide de l'État qui est donnée à l'entreprise et qui fait que l'étudiant qui veut passer sa thèse va être quasiment financé à plus de la moitié de son salaire par l'État. Donc ça, c'est la première possibilité, c'est ce qu'on appelle les bourses CIFRE. Donc là, c'est une collaboration entre le laboratoire, une entreprise qui a un besoin, et le doctorant qui est recruté. Donc là, c'est l'État français qui finance une grosse partie du salaire du doctorant. Il y a des bourses données par la région, Centre-Val-de-Loire, des bourses aussi données par le ministère, et il y a aussi régulièrement en fait des appels d'offres de différentes structures qui sont lancées et auxquelles le laboratoire peut répondre pour essayer d'obtenir de l'argent pour après financer des recherches et notamment des thèses.
Mais alors, c'est, comment dire, le modèle de la thèse CIFRE, est-ce que ça oriente pas aussi les recherches? Parce que peut-être qu'un doctorant ou une équipe de recherche peut avoir une idée vraiment innovante, intéressante, intelligente, tout ce qu'on veut, mais si ça répond à aucun besoin identifié par une entreprise, voilà, enfin, qu'est-ce que vous aimeriez dire?
Donc soit, en effet, il y a, on peut dire presque qu'il y a deux types de thèses. Les thèses orientées par une demande industrielle et les thèses plus innovantes, plus théoriques. Et là, du coup, ce sera plus des financements, comme je disais, de l'État ou de la région, où là, pour l'instant, on ne nous impose pas de contraintes. Donc, on a encore la chance, pour l'instant, d'avoir régulièrement des financements pour lesquels on peut choisir, comme on en a envie, le sujet qui sera traité.
Est-ce que vous avez des exemples de thèses en cours ou qui ont été soutenues, certaines CIFRE et d'autres pas CIFRE, pour qu'on puisse avoir une idée de...
Oui, alors la dernière thèse qui a été soutenue au LIFAT, donc c'était une thèse CIFRE, avec une entreprise de Brest et en lien avec le CHU de Tours. C'était sur un sujet qui concerne la réalité augmentée. Enfin, peut-être ça a fait un peu le buzz, donc peut-être certains d'entre vous en ont entendu parler. L'idée, c'était de proposer, de permettre aux chirurgiens orthopédistes de mettre un casque de réalité augmentée sur les yeux durant l'opération. Et du coup, en même temps que le chirurgien voit l'épaule du patient qu'il est en train d'opérer, en réalité, augmenté par-dessus ce qu'il voit concrètement, on affiche des informations virtuelles qui l'aident à réaliser son opération. Donc c'était ça le sujet de la thèse, donc c'était faire un système de réalité augmentée pour aider les chirurgiens lors d'opérations. Par exemple, guider leurs gestes, leur dire il faut percer ici, et on met une petite croix où le chirurgien, je caricature un petit peu, mais il y a une petite croix virtuelle qui s'affiche sur le patient pour lui dire où il doit inciser ou percer.
Voilà, donc ça, on peut supposer que ça peut être utilisé pour faire à distance, par exemple, pour faire des opérations à distance.
Donc voilà, enfin, là, le sujet concret dont je parle, ce n'était pas à distance, hein, c'était vraiment sur place. Mais oui, on peut aussi imaginer des systèmes de téléopération à distance, sur le même principe.
Ça existe ou c'est en cours, par exemple, ce genre de choses?
Donc là, même ce que je viens de dire, ce n'est pas encore opérationnel. Justement, c'est de la recherche. Et
Voilà.
donc pour l'instant, on est dans les phases de test en laboratoire et on n'a jamais. Il y a eu une opération durant laquelle le chirurgien avec qui on collabore, qui s'appelle Julien Berouet, qui est du coup professeur hospitalier à Trousseau, a utilisé ce casque durant une opération, mais c'était pour l'instant juste pour avoir des informations sur le dossier du patient. Mais on n'allait pas encore pour l'instant jusqu'à lui dire quel geste il devait faire.
Voilà, bon. Eh ben, merci. Alors peut-être un autre exemple de thèse non chiffre.
Oui, alors du coup une thèse un petit peu plus théorique où on était libre justement de choisir le sujet. Donc en ce moment on entend beaucoup parler de intelligence artificielle et de deep learning. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent cette terminologie. Et du coup voilà sur les sujets un peu plus théoriques. Donc on va avoir des thèses qui vont étudier. Et proposer des nouvelles formulations de réseaux de neurones pour mettre en place ensuite des algorithmes qui sont capables d'apprendre des choses quand on leur montre des données, pour après être capable de prendre des décisions seuls. Pas trop comment expliquer le sujet de manière vulgarisée, mais du coup,
Ah,
c'est
ça.
des sujets un peu plus mathématiques où. Voilà, il faut travailler sur des techniques d'apprentissage automatique, d'analyse de données et du coup de calcul matriciel pour après développer des algorithmes qui sont capables d'apprendre automatiquement des choses quand on leur soumet des masses de données importantes.
Alors ça renvoie peut-être aux inquiétudes du type ah mais on va remplacer le cerveau humain, on va réussir à faire mieux, plus performant.
Alors, ça renvoie à tout ça. Et du coup, une des préoccupations du LIFAT, c'est justement de faire attention à ça. Et donc, c'est des sujets un petit peu émergents en ce moment au sein du laboratoire, mais on est conscient donc qu'il faut faire attention à ce genre de choses, ne pas. En tout cas, quand on commence à développer des algorithmes qui sont capables de prendre des décisions, il faut être très prudent et réfléchir à ce qu'on fait, à ce qu'on met dans ces algorithmes. Et donc, il y a en ce moment des réflexions au sein du LIFAT pour faire une recherche éthique, réfléchir aux conséquences des nouveaux modèles qu'on est en train de développer. J'espère qu'il soit transparent et qu'on ne développe jamais d'algorithmes qui donnent enfin, en tout cas le moins souvent possible, de développer des algorithmes qui donnent des décisions sans qu'on soit capable de les expliquer et de les comprendre, d'où sortent ces décisions. Faire attention aussi justement à ce que les données que l'on utilise pour alimenter ces algorithmes ne soient pas biaisées et que du coup, les décisions prises respectent par exemple les minorités qu'on peut trouver dans les populations. Voilà, ce genre de choses. On y réfléchit.
Alors vous dites le plus souvent, c'est-à-dire que malheureusement, c'est pas toujours le cas.
Déjà, c'est difficile de penser à toutes les conséquences. Des modèles qu'on développe, des fois on ne voit pas les biais Enfin, je pense même que très souvent, hein, c'est pas, enfin, c'est même, on ne va jamais développer quelque chose de biaisé, quoi que ce soit, etc. C'est qu'on ne le voit pas, en fait. Et du coup, pour l'instant, tous ces dispositifs sont un peu informels. Et je pense qu'il faudrait qu'ils deviennent plus formels et peut-être obligatoires pour qu'on pousse plus les gens à réfléchir en amont aux conséquences de leur recherche.
Alors peut-être qu'on peut donner un exemple, parce que vous parliez de biais en fait dans la construction des algorithmes, donc peut-être dire bah, si c'est une équipe de chercheurs nord-américains ou européens majoritairement blancs et hommes, ça induit quelque chose dans les paramètres peut-être. Est-ce que vous voulez donner un exemple pour illustrer ça? Parce qu'il y en a eu plusieurs en fait récemment, il y a eu des biais en fait.
Oui, enfin, du coup, voilà, je vais vraiment prendre des exemples non polémiques.
Voilà, bon courage.
Non, mais quand on fait du diagnostic médical, quand on fait un algorithme qui commence à donner un diagnostic, ben, vu que l'algorithme, il apprend à partir des données qu'on lui fournit. Si dans les données qu'on lui fournit, il n'y a que une certaine frange de la population qui est représentée, eh ben, l'algorithme va être bien adapté à cette population-là et moins bien adapté à d'autres populations. Ou alors, enfin voilà, oui, il va mal apprendre parce que les données qu'on lui donne ne représentent pas bien toutes les populations.
Voilà, donc par exemple, on fait un algorithme pour détecter je ne sais quoi le stress chez une population, mais peut-être que parce que c'est culturel aussi le stress.
C'est
Alors,
ça.
c'est-à-dire que dans une autre ère culturelle, ça marchera pas.
Tout à fait.
Et donc peut-être que la seule explication logique, c'est parce que c'est pas adapté.
Un autre exemple concret. Donc tout à l'heure, je disais, j'ai pas donné beaucoup d'exemples pour l'instant de l'équipe BDTLN là, qui
Pas
travaille
source, pas source.
sur le langage naturel. Beaucoup des algorithmes développés pour traiter les textes ou les langues ou l'oral basés justement sur des gros corpus de textes. Et du coup, ils sont bien adaptés au langage et aux mots et aux phrases qu'on trouve dans les textes très souvent, mais ils ont tendance à moins bien se comporter quand on utilise des tournures de phrases spécifiques. Et donc, si on ne fait pas attention, petit à petit, peut-être que les tournures spécifiques vont disparaître. Parce que quand on va les mentionner ou les écrire dans nos téléphones portables, elles vont plus vont être mal interprétées et mal reconnues par les algorithmes. Du coup, on va les utiliser de moins en moins et petit à petit, elles risquent de disparaître.
Alors ça, par exemple, comment dire, si on écrit un article sur un, je pense à WordPress, sur un site internet, où si on fait des phrases où il y a trop de mots, où il y a des points virgules ou plusieurs virgules, enfin pour le WordPress, c'est l'horreur. Il marque tout avec des voyants rouges pour dire qu'il y a comme s'il y avait des erreurs en fait, des fautes. Alors c'est ou alors certains mots aussi qui font trop de syllabes et du coup ça semble s'indiquer comme une faute, alors qu'en fait c'est juste en effet une formulation peut-être plus littéraire. Donc en effet,
Fait.
ça...
C'est enfin, un petit peu. Enfin, je pourrais utiliser cet exemple pour illustrer ce que je viens de dire, ou justement peut-être que si on ne fait pas attention, les gens vont utiliser de moins en moins les tournures compliquées et vont se limiter dans l'avenir à utiliser que des phrases toutes simples qui seront bien interprétées par les correcteurs orthographiques.
Voilà, donc faut faire un lobby en défense du point-virgule.
C'est ça, et du coup, enfin, faut faire attention à ce qu'il y ait des gens aussi qui fassent des recherches sur ces spécificités-là et sur ces tournures de phrases qui apparaissent moins souvent, mais qui sont quand même importantes et qui font partie de notre culture et de notre vie, quoi.
Voilà, eh bien je vous propose, Jean-Yves Ramel, de faire une première pause musicale pour reprendre notre souffle, et comme ça vous auriez ensuite tout loisir de nous donner d'autres exemples. Alors, nous allons écouter Eliane Radigue, une des pionnières de la musique électronique. Est-ce que vous aimez Eliane Radigue?
Je ne connaissais pas plus que ça avant que vous
Ah!
mentionniez son nom, donc je veux bien écouter.
Bon, alors. Découvrons le travail d'Eliane Radigue, chers auditeurs. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Campus Tours. Eliane Radig sur Radio Campus Tours, Terre, Eau, Pluie. Jean-Yves Ramel, vous êtes directeur du LIFAT, vous êtes toujours directeur du LIFAT, même après le passage d'Eliane Radig. Alors vous vouliez nous donner un autre exemple pour illustrer les travaux de l'équipe route, je crois.
Oui, donc je suis désolé, du coup toujours avec l'hôpital, un exemple au sein de l'hôpital, mais que je trouve assez intéressant aussi. Donc l'équipe route travaille en ce moment beaucoup avec le CHU pour. On sait que dans les CHU en ce moment, ils sont submergés un petit peu par les patients, etc. Et du coup, nous développons l'équipe, cette équipe du LIFAT développe aussi des algorithmes pour mieux organiser et optimiser différents éléments au sein des hôpitaux. Je vais donner deux exemples. Donc, il y a une première collaboration qui cherche à optimiser les parcours patients en fait au sein des hôpitaux. Donc, comment bien planifier les rendez-vous, les consultations des patients pour être capable de maximiser le flux. Et une autre application, c'est la préparation des chimiothérapies, en fait. Donc là, du coup, concevoir, alors je ne suis pas spécialiste, donc je vais peut-être dire des bêtises, mais concevoir les chimios adaptés à chacun des patients, c'est compliqué, et c'est un processus long, avec des contraintes, puisqu'il ne faut pas commencer la préparation de la chimio trop tôt, sinon elle n'est plus efficace quand le patient arrive. Et ni trop tard, parce que sinon elle n'est pas prête quand le patient est là. Et donc notre équipe du laboratoire là, développe des algorithmes qui vont chercher à optimiser les préparations de chimio en fonction de diverses contraintes pour qu'elles soient prêtes quand il faut, ni trop tôt, ni trop tard. Voilà, c'est d'autres exemples de recherche que l'on fait au sein du laboratoire.
Et alors sur les thèmes de recherche sur lesquels travaillent ces équipes, il y a aussi, donc vous l'avez déjà dit tout à l'heure, mais c'est les humanités digitales. Alors là, je vois qu'il y a un travail par exemple avec le CESR. Donc si j'en parle, c'est parce que le CESR sera là aussi, à la fête de la science avec le cubiculum, je crois. Alors qu'est-ce que vous aimeriez dire sur ce travail avec le CESR ?
Donc c'est vrai que du coup, pour l'instant, les exemples que j'ai donnés d'applications de nos recherches au LIFAT étaient plutôt orientés santé.
Voilà, pas de jaloux.
Et en fait, on a un autre domaine d'application de nos recherches qui est, donc, comme vous l'avez dit, les humanités numériques. Puisque dans la région, on sait il y a beaucoup de patrimoine et de tourisme. Et donc, certains de nos algorithmes sont aussi utiles dans ce domaine-là. Alors, avec le CESR, je vais mentionner donc nos travaux sur la mise en place d'outils informatiques qui vont aider les chercheurs du Centre de la Renaissance à indexer leurs ouvrages anciens. Parce que, du coup, au CESR, il y a une librairie avec plein d'ouvrages qui datent de la Renaissance. Ces ouvrages vont être numérisés. Pour les mettre à disposition des ouvrages qui sont fragiles. Et du coup, on n'a pas le droit, en tant qu'utilisateur, d'aller les feuilleter sur place. Et du coup, pour les rendre accessibles au public, on va les numériser et les mettre à disposition sur Internet. Et du coup, nous, on va développer des algorithmes qui analysent les images numérisées de ces ouvrages, essaye de reconnaître le contenu de chacune des pages, indexe les contenus, pour qu'après, il soit plus facile aux utilisateurs de faire des recherches sur ces ouvrages. Pour les utilisateurs, ça peut être aussi bien vous et moi sur Internet, et on peut imaginer qu'on veut chercher tous les ouvrages anciens qui parlent de Chinon, par exemple. Et du coup, grâce à nos algorithmes qui auront extrait toutes les occurrences de Chinon dans toutes les pages de tous les ouvrages anciens, ce sera plus facile de trouver tous les ouvrages qui mentionnent la ville de Chinon. Ça peut aussi être recherché un ouvrage qui contient une illustration particulière. Dans les ouvrages anciens, il y avait beaucoup de lettrines ou ou autre. Et du coup, on peut aussi, enfin, il y a aussi des gens qui peuvent s'intéresser à ces lettrines. Donc on a aussi développé des algorithmes qui se focalisent sur ces lettrines, qui les extraient automatiquement, qui les comparent les unes aux autres. Ça va là plutôt être destiné à des chercheurs en histoire qui vont pouvoir comme ça voir que tel tampon associé à telle lettrine qui a utilisé dans tel livre a aussi été utilisé dans un autre livre ailleurs en Europe. Et on va pouvoir retracer la circulation des tampons qui ont été utilisés pour imprimer ces ouvrages et voir que du coup, tel imprimeur a travaillé d'abord à Lyon, puis après à Rome, en Italie, etc.
Voilà, ça ressemble, enfin peut-être que je vais dire une bêtise, mais ça fait penser à Gallica, par exemple.
Oui, voilà, tout à fait.
Mais c'est un Gallica local et Renaissance.
Voilà, du coup, le CESR développe un mini Gallica dédié à la Renaissance. C'est le projet Bibliothèque virtuelle humaniste qui est inclus dans Gallica, en fait. Après, du coup, ce qui est fait au CESR est après récupéré par Gallica, c'est la base Gallica.
Voilà, donc ça c'est un exemple d'humanité numérique.
Je peux vous en donner un autre si vous
Oh
voulez.
bah oui.
Donc oui, un autre exemple en humanité numérique complètement différent, et du coup qui va me permettre d'illustrer ce que fait le CETU dont je parlais tout à l'heure là. En ce moment, dans le domaine des humanités numériques, il y a beaucoup de c'est le contexte hein, qui veut ça, de travaux aussi sur les visites virtuelles en fait touristiques. Et donc on a aussi pas mal travaillé sur ce genre de choses, enfin, le CETU Iliade, là, normalement, dont je parlais tout à l'heure, travaille beaucoup sur la numérisation des châteaux en 3D, la numérisation aussi des statues qui se trouvent dans ces châteaux, pour après concevoir des visites virtuelles ou des dispositifs en tout cas interactifs qui vont être proposés au public pour que ces visites virtuelles soient les plus intéressantes possibles et les plus interactives possibles, etc., etc. Donc on va numériser les éléments patrimoniaux, on les reconstruit en 3D sur nos ordinateurs et après on propose, on associe des données explicatives à ces reconstructions 3D qui vont alimenter les systèmes de visites virtuelles.
Alors une autre question, voilà, puisque cette émission approche déjà de sa fin. Donc on rappelle, hein, Jean-Yves Ramel, que le LIFAT sera présent sur le village numérique, justement, de la Fête de la Science le 10 octobre prochain. Alors qu'est-ce que le LIFAT pourra proposer aux YouTube, enfin aux personnes en tout cas qui se rendront sur la chaîne YouTube?
Donc, nous allons proposer une petite démonstration qui illustre nos recherches et qui concerne du coup l'analyse automatique de vidéos. Donc là, l'idée, c'est de faire un système qui permet de reconnaître automatiquement le langage des signes, en fait. Donc, on filme avec une webcam ou n'importe quoi quelqu'un qui s'exprime en langage des signes et l'algorithme va reconnaître les signes faits par la personne et transformer ces signes en du texte qui pourra être affiché sous l'écran ou permettre à quelqu'un qui ne comprend pas en tout cas le langage des signes de savoir ce que dit la personne qui s'exprime en langage des signes.
Est-ce que l'action peut être inverse? Par exemple, pour une personne malentendante ou non entendante, est-ce qu'on peut avoir une traduction? Mais comment ça marcherait d'ailleurs?
Non, du coup, le système inverse auquel j'avais pensé moi, qui pourrait être aussi utile que la démonstration qu'on va faire, c'est plutôt que quelqu'un comme moi, qui ne connaît pas le langage des signes, tape du texte sur son clavier ou sur son smartphone, et que je tape, il y ait un avatar de moi-même qui s'affiche sur mon écran et qui traduise ce que j'ai tapé en langage des signes. Si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je ne sais pas dire bonjour en langage des signes. Je tape bonjour sur mon clavier. Et du coup, il y a une vidéo d'un personnage virtuel qui va dire bonjour en langage des signes.
Voilà, donc là par exemple, on voit l'utilité que ça pourrait avoir dans les salles de spectacle, pour des conférences numériques ou réelles, en fait, d'avoir un avatar ou en tout cas une réalité virtuelle et un personnage virtuel qui puisse signer en même temps. Voilà, donc là ça y est.
Là, la démonstration qu'on fait, c'est plutôt
L'inverse.
quelqu'un qui ne parle que le langage des signes va à sa banque et parle en langage des signes à son banquier. Et du coup, le banquier voit la traduction des signes sur son écran et peut comprendre ce que lui dit la personne en langage des signes.
Voilà, mais alors après ça, que si on met sur la banque, j'entends bien que la personne s'exprime en langue des signes, mais c'est-à-dire que la réciproque, c'est voilà.
Ouais. Donc après, oui.
Voilà, faut
Après,
patience.
il faut le système inverse,
Et voilà,
ça.
mais j'entends bien. Une autre question, tiens, qu'est-ce que vous pensez des sciences participatives? Parce que ça aussi, c'est très à la mode. Alors, c'est quoi, à votre avis, qu'est-ce qu'on appelle sciences participatives?
Donc, c'est essayer d'impliquer le public dans les sciences. Enfin, c'est quelque chose de très important aussi. J'ai déjà participé à des actions de ce genre-là. Enfin, pour moi, c'est aussi super important de vulgariser les sciences auprès de tout le monde, de faire connaître notre travail au grand public, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une fausse idée de la recherche et qui croient que c'est très théorique, alors qu'on peut faire de la recherche assez concrète, en fait, en tout cas en informatique, mais je pense que c'est dans tous les domaines. Et du coup, enfin, on sait aussi que les sciences intéressent de moins en moins les jeunes, et du coup, c'est bien aussi de leur montrer ce que c'est, et de leur montrer que c'est assez accessible à tous, et de monter des petits ateliers pour illustrer différents phénomènes. C'est intéressant pour tout le monde et ça permet aussi de nous remettre en question parce que ça nous force à essayer d'expliquer ce qu'on fait de manière simple.
Alors, vive les questions naïves. Vive les questions naïves.
Exactement, vive les questions naïves et vive les réponses simples en langage de tous les jours.
Merci Jean-Yves Ramel. Peut-être qu'on peut rappeler où est-ce qu'on peut trouver le LIFAT sur Internet ou ailleurs, si on a des étudiants qui veulent faire un stage, par exemple, ou alors juste des gens curieux qui ont envie d'en savoir plus sur vos activités de recherche.
Donc physiquement, concrètement, le LIFAT se trouve donc à la fois, enfin, principalement dans les locaux de Polytech Tours, avenue Portalis, un site des Deux Lions à Tours. Mais il y a aussi donc, comme je disais au début de l'émission, un site LIFAT à Blois, au sein de l'UFR Sciences, près de la Halograin de Blois. Sinon sur le web. Vous pouvez taper l'IFAT dans un moteur de recherche pour retrouver le site ou utiliser l'URL qui est toute simple aussi, qui est lifat.univ-tour.fr dans la barre du navigateur et vous tomberez sur le site web du LIFAT.
Voilà, à bons entendeurs et rendez-vous donc sur la chaîne YouTube pour voir ce travail autour de la langue des signes. Grand merci à vous, Jean-Yves Ramel. Et on va se quitter, chers auditeurs, en écoutant Manu Dibango.
Thank you.